Tout d'abord, merci donc de cette invitation, de se retrouver dans cette fondation extrêmement dynamique et avec des collègues et d'autres intervenants, j'espère, dans la discussion que nous aurons tout à l'heure. Nous abordons une thématique très intéressante parce que, quand même, quand on essaye d'imaginer qu'une cellule, comme une cellule aussi importante que les spermatozoïdes, par exemple, ou bien les ovocytes ou bien les embryons peuvent être congelés pendant des mois, des années, et ensuite retrouver la vitalité, je dirais, qui va caractériser la survenue d'une vie humaine. C'est donc quelque chose d'assez étonnant, et même philosophiquement, on va voir ensuite le cadre dans lequel ça peut se présenter, mais philosophiquement, le fait de penser que il y a une interruption comme ça du temps et une reprise du temps, bien sûr, ça ouvre tout un tas de domaines de science-fiction, hein, je dirais, de cette délégation du temps. En même temps, j'ai envie de dire, de toute façon, vous savez que les ovulations chez les dames, puisque jusqu'à présent, il n'y en a toujours que chez les dames, n'est-ce pas, commencent à l'âge de 13 ans, à la puberté, se terminent à la ménopause, et que finalement, si une femme est enceinte à 40 ans, l'ovocyte qui va donner le bébé à 40 ans, ben, il a 40 ans. Pourquoi ? Parce que tous les ovocytes sont là depuis le début. Dès qu'une petite fille naît, elle a son stock d'ovocytes qui va perdurer pendant les années de fonctionnement de ses ovaires. Donc, c'est déjà, il y a toujours cette notion du temps. On dit, ah oui, on va congeler, donc on va arrêter le temps, c'est vrai pour l'ovocyte en question, mais c'est vrai aussi que, de toute façon, on a du mal à penser que, encore une fois, une femme de 40 ans, bah, finalement, son ovocyte, il est là depuis 40 ans. C'est à la différence des hommes qui, eux, renouvellent sans cesse le travail. C'est-à-dire que les spermatozoïdes, ils ne se stockent pas, ils ne sont pas donnés une fois pour tous, ils travaillent en permanence. Donc, c'est une différence qui n'est pas inintéressante. En fait, la conférence d'aujourd'hui, elle est pour voir les indications médicales ou bien les indications sociétales qui pourraient découler de cette préservation du potentiel de la reproduction. Tout d'abord, historiquement, c'est la conservation du sperme qui a été donc la première modalité, puisqu'elle date des années 50 et 60, je crois, c'est la première naissance après insémination d'un sperme qui a été congelé. Ensuite, je parle pour la France que je connais mieux que la Suisse, beaucoup mieux, eh bien, il y a eu la création des centres de conservation du sperme pour éventuellement utiliser ce sperme pour, dans le cadre du don de gamètes, qui est un autre débat qu'on pourra avoir, mais qui n'est pas tout à fait le centre du sujet de ce soir. Donc, la congélation des spermatozoïdes est, encore une fois, moi, dans ma vie scientifique, il y a plusieurs moments assez forts, mais la décongélation des spermatozoïdes en les revoyant se mobiliser et bouger est quelque chose d'assez impressionnant, si on veut bien prendre un peu de recul. De même que les cellules souches, c'est un autre moment, si vous voulez, quand on a des cellules souches qui deviennent des cellules cardiaques et qui, après quelques jours de culture, se mettent à battre, comme se bat le muscle cardiaque, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement épouvant, parce qu'on ne sait pas où se situe, on va dire, allez, l'énergie vitale, quoi, en un mot, qui fait qu'une cellule reprend comme ça cette activité. Bon, quoi qu'il en soit, donc la congélation de sperme est quelque chose qui date déjà depuis un certain temps. Et puis, lorsque la fécondation in vitro est venue sur la scène, c'est-à-dire en 78, il y a eu très rapidement une problématique, c'est que on a donné des stimulations assez fortes aux patientes pour essayer d'avoir plusieurs ovocytes, parce qu'au tout début, on essayait de recueillir un seul ovule, de le féconder, d'avoir un embryon, c'était déjà le Graal. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toujours l'ovocyte, c'était compliqué de courir après cette ovulation, et donc on a eu l'idée, ici ou là, de stimuler et d'avoir plusieurs ovocytes. Donc très bien, on a plusieurs ovocytes fécondés et donc plusieurs embryons. alors, qu'est-ce qu'on fait des embryons? Donc, au début, on remettait un nombre d'embryons qui était à discuter, puisque 2, 3, 4, et ça donnait des grossesses simples, doubles, triples, voire quadruples. Donc, problème, parce que là, qui dit grossesse multiple, dit risque de prématurité. Donc, la question, elle était, mais OK, on va en mettre moins, mais qu'est-ce qu'on fait des embryons que l'on a? Vous voyez, si on a obtenu 4 embryons, et on va en mettre 1 ou 2, mais qu'est-ce qu'on fait des 2 surnuméraires? D'où l'idée de développer la congélation des embryons. Vous voyez, spermatozoïde, embryon. Et la congélation des embryons, qui avait déjà été faite chez l'animal, a commencé à fonctionner chez l'humain en 83 et 86 pour nous, à Clamart. C'est-à-dire qu'on a eu les premières naissances après congélation d'embryons. Donc, spermatozoïde, embryon, et on arrive à l'ovocyte. Alors, l'ovule est un organisme qui est beaucoup plus fragile parce qu'il n'est pas forcément stabilisé. Il n'est pas forcément, je dirais, en métaphase stable. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait forcément son déroulement chromosomique complet. Et les premières tentatives qui ont été faites de congélation d'ovocytes datent de 86, c'est-à-dire, vous voyez, un peu plus tard que le sperme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était des résultats qui étaient sporadiques. D'ailleurs, il y avait eu quelques naissances qui étaient signalées ici ou là, mais ce n'était pas une méthode qui était applicable sur une grande échelle. En fait, ce sont les Japonais, en 2005, et la première naissance est en 1999, mais disons qu'à partir de 2005, ils ont développé une technique de congélation différente des précédentes, je vais m'expliquer dans un instant, qu'on appelle la vitrification. Et cette technique de vitrification a donné des succès beaucoup plus importants, au point qu'aujourd'hui, la plupart des équipes utilisent cette vitrification lorsqu'il s'agit de conserver donc, la vitalité des ovocytes et même des embryons. Cette vitrification, pour qu'on se comprenne, et on peut s'imaginer, on va dire, un iceberg avec des pingouins qui sont en haut de l'iceberg. Et lorsqu'il y a un petit escalier et que le pingouin descend pour aller dans l'eau glacée, eh bien, s'il descend par les marches, ça va être la congélation lente. C'est-à-dire que palier par palier, on va descendre la température jusqu'à moins 196 degrés. Dans la vitrification, il est en haut de la banquise et il saute. Et plouf, il tombe dans l'eau glacée. Alors, c'est une différence technique on peut rentrer dans les détails si ça intéresse quelqu'un, pourquoi est-ce que l'un ou l'autre. Mais finalement, tout cela, on peut le recouvrir sous le même terme. C'est une préservation de la capacité ovocytaire à se développer ultérieurement. Qu'on fasse de la congélation lente, qu'on fasse de la congélation rapide, qu'on fasse demain peut-être de la lyophilisation, c'est pas impossible, hein. Eh bien c'est toujours une technique de conservation. Alors, pourquoi conserver? Vous savez-vous quelle est la personnalité, on va dire, qui est responsable du développement de la congélation de l'ovocyte? Eh bien, contre toute attente, c'est le pape. Pourquoi est-ce que c'est le pape? Parce que en Italie, où, comme tout le monde, il faisait un certain nombre d'embryons, pour ne pas avoir d'embryons surnuméraires qui posaient des problèmes de réflexion éthique, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un embryon, je dirais une personne, pas une personne, donc pour éviter cette situation de congeler des embryons surnuméraires, ils avaient l'autorisation d'utiliser 3 ovocytes, de les féconder, et le résultat de cette fécondation, de remettre les embryons dans l'utérus. D'accord, vous me suivez? Et donc, il restait des ovocytes qui n'étaient pas fécondés. Ah, c'était quand même une peine d'avoir ces ovocytes si difficiles à obtenir. La femme avait eu un traitement qui était lourd, et des ovocytes, si on ne les utilisait pas, ben, on les jetait. Donc, ils ont commencé à développer cette congélation ovocytaire pour pallier à cette situation un peu paradoxale. Donc, la congélation d'ovocytes s'est développée et est venu, comme je vous l'ai dit, à l'ordre du jour pour plusieurs situations. La toute première, c'est d'abord qu'il y a des couples, et particulièrement justement en Italie, mais aussi dans tous les pays finalement, qui ne supportent pas bien l'idée de conserver des embryons. conserver des embryons, c'est reposer la question de savoir quel est le statut de l'embryon, n'est-ce pas ? Et ça touche les uns ou les autres philosophiquement. Ça lie l'homme et la femme de façon pour longtemps vis-à-vis de cet embryon, parce que l'un ne peut pas décider pour l'autre, il faut que les deux décident de leur devenir. Alors que la congélation ovocytaire est beaucoup plus ouverte à une liberté de décision pour la femme d'utiliser, de ne pas utiliser, de les conserver. Ce n'est pas la même charge affective que de conserver des embryons. Donc il y a déjà un certain nombre de couples qui, lorsqu'on leur proposait la congélation ovocytaire, plutôt que de constituer un nombre d'embryons, préféraient cette situation pour ne pas être en conflit éthique. La deuxième situation est une situation beaucoup plus médicale. Elle est beaucoup plus médicale, c'est qu'on s'est rendu compte, avec les développements des sciences, que le traitement du cancer gagnait en succès. Et que donc un certain nombre de femmes qui présentaient un certain nombre de cancers pouvaient être guéries. Lorsque cela survenait chez des femmes seules, et des femmes qui étaient jeunes et seules, le fait de savoir qu'elles pouvaient récupérer un projet de vie avec éventuellement un désir de grossesse à la clé était quelque chose d'important. Et la congélation à ce moment-là des ovocytes était la seule situation, parce que si on congelait des embryons, ben, bis repetita, ça liait, il fallait d'abord qu'il y ait un monsieur, il fallait ensuite qu'il y ait un projet. La congélation des ovocytes donc, a été proposée pour pouvoir traiter les maladies graves comme le cancer, pour éviter donc que la femme se retrouve démunie à la fin de son traitement, puisque vous le savez, la majorité, en tous les cas jusqu'à présent, peut-être qu'avec le développement de l'immunologie on reverra les choses, mais jusqu'à présent, la chimiothérapie qui est utilisée dans le traitement des cancers aboutit à détruire la fonction ovarienne dans la majorité des cas. Donc, pour éviter cette situation, on a proposer la congélation d'ovocytes. Donc vous voyez, congélation d'ovocytes lorsqu'on est avec une situation éthique, on va dire, pour certains couples, si on leur propose les choses comme ça, situation médicale avec le cancer, et puis bien sûr, progressivement, d'autres situations que l'on connaît. Par exemple, des fois, au cours d'un traitement de fécondation in vitro qui consiste à recueillir, vous le savez, les ovules d'une femme qu'on a stimulée, et donc de les mettre en contact avec le spermatozoïde du monsieur, et bien parfois le monsieur, il n'arrive pas à produire les spermatozoïdes le jour J, psychologiquement par exemple, ou bien on fait un prélèvement chirurgical et on n'a pas de spermatozoïdes à utiliser, à féconder. C'est des situations où la femme, elle a eu le traitement, elle va bénéficier d'un prélèvement et on peut conserver les ovocytes et réfléchir ensuite comment éventuellement développer son projet. Bien entendu, les indications médicales ont commencé à pousser vers d'autres indications. La première, après le cancer, c'est une maladie qui est très embêtante, qui s'appelle l'endométriose, qui vient bouleverser le fonctionnement hormonal et la production des ovules chez la femme. Et on se dit que devant le risque de kystes d'endométriose qui peuvent altérer complètement la fonction ovarienne, il est plutôt préférable de les d'en prendre, de les congeler pour une fertilité ultérieure. Et puis, lorsqu'on voit une baisse de la fonction ovarienne, on peut se dire aussi que peut-être vaut mieux congeler des ovocytes avant que n'arrive la fin de fonctionnement des ovaires. Donc vous voyez, on a commencé à avoir des indications éthiques, des indications médicales lourdes, des indications plus ouverte, toujours médicale, et puis bien entendu, s'est posée la question qu'on va discuter de la congélation de convenance. C'est-à-dire sans raison médicale, comme je viens de l'indiquer précédemment. Alors, pourquoi cette congélation de convenance s'est-elle posée ? Elle se pose parce que le désir de grossesse, incontestablement dans les sociétés et dans à peu près toutes les sociétés, mais particulièrement dans les sociétés européennes, est beaucoup plus tardif qu'auparavant. Les femmes ont des enfants à partir de 30 ans et plus, et je dirais, on arrive à un moment où beaucoup de femmes aboutissent à 35 ans, sans avoir forcément le prince charmant voulu, ou bien avoir un autre projet dans l'immédiat de vie, et donc, je dirais, de repousser le moment de la maternité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le repousser indéfiniment, parce qu'il y a une horloge biologique qui est fondamentale, et que la plupart des femmes autour de la quarantaine vont rentrer dans les difficultés de réalisation, quelles que soient les techniques médicales que l'on peut proposer. Donc il y a une baisse de la fertilité avec l'âge et il y a un désir d'enfant qui est plus tardif. Plus un mode de vie que vous connaissez autour de vous, si ce n'est pas vous-même, de recomposition de couple, de recomposition familiale, qui fait qu'on arrive très vite à une période où le désir d'enfant va se manifester alors qu'il y a une difficulté à ce qu'il soit réalisé correctement. Et donc, l'idée de conserver des ovocytes pour des jours meilleurs, c'est-à-dire pour reporter la maternité quelques années plus tard, se comprend dans ce contexte-là. Il ne se comprend pas dans le contexte habituel dans certains pays où les jeunes femmes sont enceintes à 18 ou 20 ans. Il se conçoit beaucoup plus dans une société qui a évolué, quoi qu'on fasse, et ce n'est pas la congélation qui va pouvoir évoquer autre chose. Enfin, qui est responsable, je veux dire, de cela. Alors, si on comprend le principe, on peut aussi réfléchir sur ce principe. Et une des questions qui va se poser, c'est de savoir, est-ce que éthiquement, cela, ou philosophiquement, comme on veut, est-ce que cela est licite de discuter de cette conservation, ou bien est-ce qu'il y a des oppositions de principe ? Je parle bien de principe, parce que souvent, il y a des confusions, on va le voir tout à l'heure, on va discuter des modalités. Je veux dire par là qu'on peut discuter, est-ce qu'on prélève des ovocytes à toute jeune fille à 20 ans, est-ce qu'on le fait jusqu'à 60 ans, est-ce qu'on fait payer, est-ce qu'on ne fait pas payer. Ce sont des questions qui reviennent toujours dans les modalités. Mais la question de fond, avant de voir les modalités, c'est de savoir, est-ce qu'on en accepte le principe ? Et il faut avoir entendre des arguments d'opposition. Les arguments d'opposition que j'ai entendus ici ou là, à mes yeux, ne tiennent pas bien la route. Par exemple, en France, à un moment donné, et mon collègue et néanmoins ami était, je dirais, membre du comité national d'éthique à ce moment-là, où il y a eu une première discussion, où il y a eu des oppositions de principe, en donnant essentiellement comme argument que cela était à risque. C'était un risque parce qu'effectivement, une stimulation de l'ovulation, un prélèvement, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un risque. Est-ce que c'est un risque suffisant pour ne pas le faire, ou est-ce que c'est un risque qui nécessite une information ? Parce que le risque, il est identique à toutes les fécondations in vitro, c'est la même chose. Donc si on estime qu'il y a trop de risques pour le faire, il faut arrêter toutes les fécondations in vitro, mais pas uniquement dans le but de conserver des ovules. La difficulté, elle était aussi, en France en tous les cas, que l'on favorisait la loi de 2011, favorise les femmes qui veulent donner une partie de leurs ovocytes à conserver l'autre partie pour elles-mêmes. Donc, certaines femmes, à condition qu'elles aient un cancer, à condition qu'elles aient un don d'une partie de leurs ovocytes, ont d'un seul coup le côté licite de conserver pour elles-mêmes leurs ovocytes. Celles qui n'ont pas cette situation de double peine ne l'auraient pas. Vous voyez, on est dans une contradiction. On est dans une contradiction à mes yeux. Je vous rappelle simplement que pour ce qui concerne la France, malgré ce qu'a dit notre Premier ministre tout à l'heure, qu'on va donc discuter des lois de bioéthique à partir de la rentrée en septembre, ce problème, pour l'instant, n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'à présent, nous n'avons pas l'autorisation de conserver des ovocytes pour une convenance personnelle. Alors, et je vais m'abstenir après parce qu'on reviendra sans doute sur les discussions, est-ce que c'est une convenance personnelle ou est-ce que c'est de la prévention ? Et c'est très important parce que du coup on se dit, est-ce que finalement c'est utile pour prévenir une situation et on fait de la prévention médicale et donc du coup on peut le prendre en charge dans certaines limites sur lesquelles je reviendrai, certaines modalités, ou bien est-ce qu'on considère que c'est de la convenance personnelle comme la chirurgie esthétique en France où ce n'est pas remboursé par la société ni par la sécurité sociale. Vous voyez, on peut avoir des discussions sur ces modalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes, en France toujours, hein, je parle de ça, ont la possibilité de conserver le sperme. Si je vois un homme qui part demain au Mali dans l'armée française et qui me demande, et c'est arrivé plusieurs fois, de conserver le sperme parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, il suffit que je fasse une ordonnance, il va aller dans un centre et on va conserver le sperme. Une femme ne peut pas. Donc, vous voyez, on est dans des situations qui ne sont pas simples à résoudre puisqu'il y a des contradictions énormes. Alors, est-ce à dire que tout est simple ? Et je terminerai là-dessus. Sûrement pas. Ça va être l'objet de nos discussions, je suppose. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est en faveur de cette possibilité qu'il faut le faire sans réflexion, sans information surtout, sans accompagnement précis sur le fait que ça ne marche pas à tous les coups, que c'est compliqué, que ça coûte cher, et qu'il faut bien réfléchir avant de le faire. Mais ça, c'est le rôle de tout médecin, qui est celui d'accompagner ses patientes, de les informer et de leur montrer les limites de telle ou telle altitude. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, et puis bien sûr, on reprendra après les autres interventions.
Merci beaucoup. Je vais présenter Monsieur François Ansermet, donc qui est professeur émérite de pédopsychiatrie de l'Université de Lausanne et de Genève, aussi psychanalyste, et qui est actuellement membre du comité consultatif national d'éthique en France depuis 2013, et qui s'intéresse forcément aux questions de procréation médicalement assistée, et qui est notamment dans son dernier ouvrage sur la fabrication des enfants, et qui va donc présenter pendant une vingtaine de minutes aussi son travail, ses recherches autour de toutes ces questions du point de vue plus psychanalytique et psychiatrique.
Oui, merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation et le plaisir d'échanger avec René Friedman sur cette question au fond à la fois nouvelle mais qui existe. On n'autorise pas des choses qui existent en même temps et que les gens vont faire peut-être ailleurs. Donc je ferai quelques réflexions à partir de la clinique, c'est-à-dire ma pratique clinique au cas par cas. Chacun bricole, construit, fabrique son mode d'origine et de procréation. Et puis en même temps, cette réflexion éthique dans laquelle j'ai été plongé, où était aussi René Friedman, qui n'est pas simple puisque là on est dans le pour tous. Si vous voulez, il y a la tension entre le cas par cas, l'unique, et le pour tous. Alors la conservation des ovocytes, pour moi, concerne le champ de préservation de fertilité chez la femme, cancer et fertilité, qui est un champ très important. Concerne aussi la conservation de convenance, c'est-à-dire la problématique des grossesses différées, qui était le titre ici donné, des grossesses qu'on appelle des fois tardives, c'est-à-dire décalées dans le temps, une maternité plus tardive, et puis concerne aussi un autre champ qui me semble très important et qui est sous-jacent à cette question, qui est celui des ovocytes surnuméraires pas utilisés ou du don d'ovocytes. Alors, d'une manière générale, au fond, qu'est-ce qu'on peut dire de ces biotechnologies de la procréation ? Eh bien, c'est qu'elles mettent en avant un monde nouveau, un monde fabriqué, un monde inventé. Et que par rapport à ce monde nouveau, il y a certains qui ont un recul. Ils ont une crainte par rapport à la nouveauté. Et au fond, on peut dire que là, on parle de une dimension qu'est la conservation des ovocytes, mais René Friedman a été pionnier dans ce domaine des procréations médicalement assistées, vraiment une étape marquante de la fameuse Amandine. Donc un monde de la procréation qui, depuis ces années-là, change plus vite que notre capacité à le suivre. Ça, je crois que c'est la donnée sur le plan éthique, peut-être même clinique. Ça implique un vertige de l'origine et également un vertige du devenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est des nouveaux modes d'origine et puis qu'est-ce qu'il en est du devenir de ces enfants. Et là, on pourrait dire que le curseur du symbolique, le curseur de la réalité même court plus vite que nous. Et qu'au fond, il y a un décalage qui s'installe. On pourrait dire par rapport à ça qu'un monde s'invente à partir des biotechnologies. Un monde nouveau de l'origine, un monde nouveau de la procréation s'invente. Et que c'est à nous de l'inventer, d'inventer le monde qui s'invente. Et que ça nécessite une certaine créativité. Il ne s'agit pas seulement de procréation, mais de création. De création de nouvelles représentations qui puissent inclure cela, tant au niveau éthique qu'au niveau politique, mais aussi au niveau subjectif. Parce qu'il y a certains qui peuvent avoir une sorte de terreur sacrée à l'idée de transgresser par rapport à certains types d'actions technologiques. Et que ça, c'est le rôle aussi du psychanalyste, du psychiatre, d'apaiser ces gens et puis qu'ils puissent faire face à cette nouvelle réalité avec toujours cette question qui est au cœur du débat et qui va être au cœur du débat sur les lois de bioéthique, c'est-à-dire est-ce que le possible, qui court plus vite que nous, est souhaitable ? Quel rapport entre le possible et le souhaitable. Et pour moi, il y a une position éthique par rapport à cette question. C'est d'être à la hauteur du contemporain, sans se laisser prendre dans trop de tentations conservatrices. Je pense que le contemporain nouveau est toujours à risque de créer des résistances et des résistances conservatrices. Alors ça pose la question de savoir quel est le contemporain dans lequel on vit. Et je crois qu'on est toujours en retard sur le contemporain. Ainsi, on pourrait dire que le contemporain, c'est toujours d'une certaine manière du post-contemporain. Parce que le contemporain, quand on le réalise, il a déjà passé. Et au fond, on commence à réfléchir trop tard par rapport à des choses qui existent. Un enjeu de l'éthique, c'est aussi d'anticiper. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond ? C'est que les biotechnologies qui sont liées au développement de la science aboutissent à des opérations nouvelles sur le monde et dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont. C'est-à-dire, il y a un paradoxe. Si on veut, la science classique aboutit à des technologies qui aboutissent à du savoir. Là, on a des biotechnologies qui opèrent sur le monde et qui produisent du non-savoir, un vertige, quelque chose qu'on ne saisit pas très bien et qui peut laisser perplexe et même qui peut angoisser certains. C'est pour ça que je dis souvent que les comités d'éthique sont des observatoires de la perplexité contemporaine. Si on veut mesurer le degré de perplexité, on se met dans un comité d'éthique. Tu y étais avant moi. C'est aussi les observatoires de l'angoisse. En tout cas, les observatoires d'un réel qu'on n'arrive pas vraiment à penser, qui est plutôt... à des dimensions peut-être impensables. Et par rapport à ces dimensions impensables, le monde se partage, je simplifie parce qu'il faut aller vite, le monde se partage d'un côté entre les technoprophètes qui promettent un monde meilleur et puis de l'autre côté, espèce plus répandue, les biocatastrophistes qui disent, eh bien, avec des choses pareilles, plus rien ne sera comme avant. Alors, la conservation des ovocytes effectivement implique un rapport particulier au temps puisque au fond la congélation, la vitrification, la conservation des ovocytes est une conservation dans le temps. Donc c'est un gel du temps, c'est pas seulement un gel des gamètes, c'est aussi un gel du temps et du temps dans sa potentialité. Et à partir de ce temps qui est gelé, qui est prolongé, qui est éternisé, pourquoi pas ? Enfin, ça, ce sera pour la discussion de savoir jusqu'à quand on peut garder un ovocyte congelé. Mais au fond, par rapport à ça, il y a une perspective où on se fait un don à soi-même. C'est-à-dire un don d'ovocyte qui aura pu être préservé en deçà d'une maladie et ensuite qui pourra permettre de procréer ou qui sera conservé par rapport à un destin personnel de la femme qui désire conserver ses ovocytes par rapport à des perspectives ultérieures. Donc finalement, c'est un don à soi-même qui est de structure fondamentalement un don temporel. Et à ce moment-là, c'est vrai que du point de vue fantasmatique, il y a toujours un lien, une spirale entre les biotechnologies et les fantasmes, le don temporel avec soi-même, la conservation de soi, hein, jusqu'à la cryoconservation de soi-même pour des générations futures qui auront permis des traitements, c'est quelque chose qui pose question. Alors, au fond, cette question de la conservation des ovocytes dans les débats sociétaux se partage entre ceux qui se pensent, et ça je pense on va en discuter tout à l'heure, l'importance de l'autonomie des femmes, c'est-à-dire par rapport à leur corps. Ça se fait, comme l'a dit René Friedman, pour les hommes, et puis ça ne se ferait pas pour les femmes. Peut-être c'est plus compliqué, effectivement, les prélèvements, mais au fond, ça pose la question de la liberté de décision des femmes par rapport à leur propre corps. Vu que c'est possible, on ne voit pas dans quelle mesure cette liberté, cette autonomie ne pourrait pas être revendiquée. De l'autre côté, il y a ceux qui ont une crainte par rapport à la pression du monde du travail. L'idée qu'il pourrait y avoir effectivement des demandes de différer des grossesses et qu'au fond ça a sidéré l'opinion publique le fait que Google et Facebook à un moment donné aient proposé la conservation des ovocytes à leurs employés et au fond en payant cette conservation. Alors tout ça pose la question de pourquoi avoir un enfant ? Pourquoi faire des enfants ? Question centrale, qui n'est jamais facile à aborder. C'est-à-dire, désirer un enfant, le désir est toujours ambivalent, on veut et on ne veut pas, vouloir un enfant, parfois à vouloir un enfant à tout prix, le désir n'y est plus, ou, troisième position, devoir faire un enfant. C'est-à-dire que, comme c'est possible, ben peut-être il faut devoir le faire. Et pour certains sujets qui ont conservé des ovocytes par des moyens qu'ils ont inventés, en Suisse, ce n'est pas non plus directement la tradition, eh bien, il y a ces ovocytes qui les regardent, hein, comme ceux qui ont aussi des embryons surnuméraires, des zygotes surnuméraires, et qu'on leur dit, en Suisse, c'est après 5 ans, qu'est-ce que vous faites de ces zygotes surnuméraires ? Est-ce que vous les implantez ou pas ? Eh bien là, effectivement, il y a une angoisse par rapport au fait qu'il y aurait un devoir ou pas de les implanter. Donc pourquoi avoir, pourquoi faire à un enfant ? Y a-t-il un droit à l'enfant ? Je sais que là, il y a des discussions sur le droit des enfants. Quel est le rapport entre le droit des enfants et le droit à l'enfant ? Je pense que c'est des questions qui sont sous-jacentes, qui courent sous les arguments autour de ces nouveaux modes de désir d'enfant qui deviennent des droits, ça il faut le reconnaître, et des possibilités et qui doivent être effectivement reconnus. Alors bon, tout ça, on dit, c'est très nouveau. Je voulais faire une petite parenthèse. On dit c'est très nouveau, on s'affole, on ne sait pas très bien comment le penser. Il y a aussi toute la problématique du posthume, hein, c'était des conservations posthumes, qu'est-ce qu'on fait ? Alors bon, effectivement, c'est nouveau, mais rappelons que dans certaines cultures, par exemple dans la culture judéo-chrétienne et chrétienne en particulier, la légende dorée de Jacques de Voragine dit qu'on peut créer l'homme de 4 façons. Je vous le rappelle parce que c'est intéressant. Sans l'homme ni la femme, comme Dieu le fit pour Adam, par l'homme sans la femme, comme il le fit pour Ève, ça, je ne sais pas si tu as déjà fait tout ça, par la femme sans l'homme, comme ça s'est fait miraculeusement par l'Annonciation, et Voragine, ça c'est à l'époque de la Renaissance, rajoute dans la légende dorée, une quatrième méthode qui est par l'homme et par la femme selon la manière commune. Voilà, il manque les procréations médicalement assistées. Bon, Athéna sort toute armée de la tête de Jupiter, ça non plus tu ne l'as pas fait. Dionysos, il est né 2 fois, bon, ça c'est peut-être plus possible, à la fois du ventre de Sémélé puis de la cuisse de Zeus, enfin bref, il y a beaucoup de modes de procréation. Alors les biotechnologies de la procréation, oblige à penser différemment l'origine de la sexualité, de la procréation, de la gestation, de la naissance et de la filiation. Vous voyez, c'est habituellement dans une atmosphère très biologique, on aligne ces notions, origine, sexualité, procréation, gestation, naissance, généalogie. Bon, c'est pas faux que ça s'aligne dans les modes communs de Jacques de Voragine de procréer. Mais au fond, les biotechnologies de la procréation séparent ces différents registres. Et le monde imaginaire et symbolique de la sexualité est différent de celui de la procréation. Le monde imaginaire symbolique de la procréation est différent de celui de la gestation. Le monde imaginaire et symbolique de la gestation est différent de celui de la naissance. Et celui de la filiation, encore autre. Il n'y a qu'à voir la façon dont les artistes, y compris au Quattrocento, tentent de représenter tout ça. Donc, les biotechnologies de la procréation disjoignent ces registres, montrent leur disjonction. Disjoignent sexualité et procréation. Ça, je fais vite, mais parce que j'ai peu de temps, mais enfin... Vous voyez, on peut procréer sans sexualité. Disjoignent procréation et gestation, puisqu'on peut, au fond, passer par une gestation pour autrui. Disjoignent origine et filiation, avec le don de sperme et le don d'ovule. Et, point qui nous intéresse ce soir, introduisent une disjonction temporelle. Offrent une possibilité de toucher au différentiel temporel. Et ça, je crois que c'est là que les esprits... cliniquement ou éthiquement se mettent en marche. Il y a un gel du temps. La cryoconservation, la vitrification, c'est aussi un gel du temps. Et effectivement, ce gel du temps pose question. Pose question pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire que René Friedman a commencé par la vie. Il a commencé par la vie et la conservation de la vie dans le temps. Et on pourrait aussi dire que tout ça nous révèle la place de la mort dans la procréation. Parce que sous-jacent à ça, il y a effectivement le fait, bon, c'était déjà dans le banquet de Platon, Socrate disait, reportait les propos de Diotime en disant « la procréation vise la part d'immortel dans le vivant mortel. » Et que c'est ça qui est en jeu. C'est vraiment la liaison entre la vie et la mort. Et que, au fond, les conservations par rapport à la maladie posent cette question de la coïncidence entre le risque de mort et la procréation. Alors, isoler l'ovocyte de la mère, de la femme, isoler, séparer le spermatozoïde de l'homme, tout ça permet effectivement des nouvelles pratiques, c'est-à-dire des procréations différées, des procréations, ça c'est une question que j'aimerais bien qu'on aborde dans la discussion, posthume, puisque au fond on peut se poser cette question-là aussi, introduisent par le fait qu'on pourrait pratiquer des dons d'ovules qui sont pratiqués, même dans les pays où ils ne sont pas autorisés, on va dans un autre pays où c'est pratiqué, ben pose la question d'une sorte de révolution anthropologique, c'est-à-dire de la mère incertaine. Jusqu'à maintenant, c'est les pères incertains. Les hommes sont habitués à devoir plus ou moins se fier à ce qu'il en est, et les gynécologues nous donnent souvent des statistiques qui nous effraient. Donc le père est incertain, ça c'est bien connu. Par contre, là, ça introduit un des fondements importants, c'est-à-dire la mère incertaine qui peut être en jeu avec le don d'ovule, mais bien sûr aussi avec la gestation pour autrui. Donc un nouveau registre de la maternité, peut-être un nouveau registre du jugement de Salomon, quand quelqu'un veut effectivement réclamer quelque chose dans un processus de filiation, à qui appartient l'enfant, à celle qui a donné l'ovule, à celle qui est la mère d'intention, à celle qui a prêté le ventre. Enfin, on a des questions nouvelles, mais au fond, qui touchent à nos représentations et qui impliquent des choses nouvelles. Un point qui me préoccupe autour du fait de séparer l'ovule de la mère, de séparer la procréation voilà, c'est, par les méthodes de procréation médicalement assistée, c'est potentiellement le lien entre procréation et prédiction. Ça aussi, peut-être une discussion qu'on pourrait avoir enfin, en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité plus grande de prédire, hein, de prédire, un enfant prédit à partir du diagnostic préconceptionnel qui a d'ailleurs été mis en avant dans les avis du comité d'éthique récemment amené, l'avis 129 du comité d'éthique français qui donne son aval au diagnostic préconceptionnel. En fait, aussi une médicalisation de la procréation, une banalisation de la médicalisation de la procréation, enfin, toutes ces questions sont importantes et nouvelles. Pour terminer, l'enfant. Un enfant est issu de ça. Que doit-il en penser ? Hein ? Ça va peut-être devenir de plus en plus fréquent, puis il y aura un égaré qui dira « Oui, mais moi, mes parents, c'était dans un chalet, un jour de brouillard, et puis ils sont pas été skiés, et puis c'est de là que je suis issu, parce qu'ils sont restés trop longtemps proches, tout proches l'un de l'autre. » Vous voyez, c'est bon. Mais au fond, peut-être que la plupart des gens seront issus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? D'où viennent les enfants ? Qu'est-ce que pensent les enfants de tout ça ? C'est-à-dire qu'il faut aussi se centrer sur les enfants. Je me souviens que quand on avait eu les lois de bioéthique en Suisse sur les procréations médicalement assistées, c'était en 2001, quelque chose comme ça, autour des années 2000, des journalistes avaient interviewé un enfant issu de procréation médicalement assistée. Il était en photo dans le temps. Et puis on lui tendait le micro, et on lui avait tendu le micro pour faire l'article, il disait, mais qu'est-ce que tu penses ? Et lui avait répondu, content d'être là. Je crois que ça, c'est une leçon de philosophie. On rejoint les propos de René Friedman sur la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est la création de la vie. On ne va pas s'affoler parce qu'on crée de la vie. Aujourd'hui, il y a des guerres partout, il y a des destructions des humains, et puis tout à coup, les comités d'éthique s'arracheraient les cheveux autour de la création de la vie sans voir le registre de la mort qui règne sur la planète. Donc, effectivement, pour moi, l'enfant, c'est important de ne pas le ramener à ses conditions de procréation. C'est-à-dire qu'il y a trop le risque. Ça, je parle du côté du psychiatre d'enfants que je suis, du psychanalyste. Il y a trop de tendance à être dans la prédiction du passé. On attribue les problèmes de l'enfant à son mode de procréation, à l'infertilité des parents, au fait que c'était un ovocyte congelé. Nous, on avait fait toute une étude sur les représentations parentales des enfants issus de zygotes cryoconservés. Et les gens nous disaient, mais bon, ils sont particulièrement résistants au froid. Et ils ont un caractère fort. Et une femme m'avait même dit, à la fin de la consultation, c'était une recherche qui a été faite par Anna Almeida Aymans, qui était sa thèse, et une femme avait dit, viens mon petit congelé. Elle avait dit, viens mon Findus. Elle l'avait donné un petit nom, Findus. Donc ça veut dire avoir trop de représentations. Et nous devons séparer l'enfant de cet excès de représentation. En d'autres termes, ne pas faire de l'origine un destin. Que ça soit un enfant adopté, que ça soit un enfant issu de procréation médicalement assistée, issu d'ovocytes cryoconservés, vitrifiés, issu de dons de sperme, issu de dons d'ovules, issu de je ne sais, ne pas en faire un destin. C'est-à-dire le laisser être, devenir l'interprète de son propre, sa propre existence. Tout dépend de ce que l'enfant fera et pas de comment l'enfant a été fait. Et ça, c'est un espace de liberté, une enclave d'inattendu dont il faut défendre absolument la présence et l'accès. L'enfant, c'est toujours un chercheur. Un enfant chercheur. Il est chercheur sur son origine. Il se pose d'où viennent les enfants ? C'est la question insoluble. Hein? Si on lui dit oui, tu viens d'un ovocyte congelé et d'un spermatozoïde congelé avec, de, je sais pas, voilà, un double don, avec, voilà. C'est sidérant. Il est issu du désir aussi de ceux qui ont décidé d'anticiper sa venue au monde. Et au fond, c'est ce désir qui porte l'enfant. C'est-à-dire que c'est un enfant chercheur et sa recherche porte sur le désir dont il est issu. C'est pour ça qu'il faut défendre, je dirais, pour terminer, un dégel du devenir. Il ne faut pas être dans un devenir gelé, figé par le mode de procréation. Et chaque enfant construit ses propres réponses, ses propres solutions par rapport au mystère de sa venue au monde en un temps et en un lieu donné. Merci.
Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on ouvre la discussion ici sur scène et puis ensuite on ouvrira à toute la salle. Vous pourrez poser vos questions aux deux intervenants. Je voulais peut-être commencer par une question, revenir vraiment au principe de la conservation d'ovocytes d'un point de vue médical. Donc en Suisse, c'est quelque chose qui est proposé et qui ne sera utilisé, ces ovocytes finalement ne seront utilisés que dans le cas où, puisque c'est la réglementation de la PMA, où la femme sera en couple mariée et rencontrera des problèmes d'infertilité. Et c'est que dans ce cadre-là que les ovocytes pourraient être utilisés. Donc je me demandais finalement quelle efficacité, quelle assurance on a de l'efficacité d'avoir un enfant avec ces ovocytes qui ont été congelés.
Alors clairement aucune. C'est-à-dire que, je dirais, comme toute procréation, il y a plusieurs étapes. Il y a la fécondation, il y a le développement embryonnaire, il y a le développement fœtal, et même jusqu'à l'accouchement. Donc, plusieurs étapes qui vont de risque majeur, celui de fausse couche, au risque mineur, celui d'une anomalie révélée, et celui encore plus rare, heureusement, d'une grossesse qui se termine mal. Donc, première chose, on n'est sûr de rien. Et particulièrement dans la congélation d'ovocytes, puisque, comme pour toute fécondation in vitro et comme pour toute fécondation, nous sommes toujours soumis à une certaine surprise. Hein, des fois, ça fonctionne là où on ne s'y attendait pas, ça ne fonctionne pas là où on ne s'y attendait pas. La congélation d'ovocytes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça mérite en tous les cas une information claire et nette vis-à-vis des jeunes femmes qui voudraient y avoir recours, c'est que ce n'est pas une garantie à ce qu'elle soit mère ultérieurement. D'abord parce que on peut être jeune et malgré tout avoir une fonction ovarienne perturbée. On peut être jeune et ne pas avoir un nombre d'ovocytes capables de se développer. Et vous savez que la capacité de se développer d'un ovocyte, on ne sait pas très bien comment la cerner. C'est-à-dire que si on regarde un ovocyte, entre le A et le B, on ne sait pas lequel a plus de chances de se développer. Donc, la plupart des scientifiques considèrent qu'il faut un certain nombre d'ovocytes pour qu'il y ait une chance raisonnable. Alors, on est autour de 12 à 15 ovocytes, ce qui, des fois, n'est pas atteint en une seule stimulation, nécessite une deuxième stimulation. Donc, vous voyez, un, c'est fastidieux, deux, c'est jamais sûr, et donc, il faut clairement donner cette information aux femmes de cette impossibilité que nous avons de tout mettre dans une case.
Vous avez parlé pendant Monsieur Friedman pendant votre présentation de cette différence entre la convenance personnelle et la prévention. Est-ce que on pourrait détailler un petit peu quels sont les arguments, à quel moment on pourrait considérer que ce serait de la prévention si on est dans une situation où plus en plus de femmes se retrouvent à faire des enfants plus tardivement, ou vraiment parler de convenance personnelle?
Mais je pense que, si vous voulez, si on est à un moment donné dans l'existence à un âge, parce que c'est lié à l'âge, on peut pas, là où ça ne serait pas de la prévention, c'est si par exemple on considère, bah oui, bien sûr que pour que ça marche mieux, il vaudrait mieux faire des prélèvements à 20 ans, c'est ce que je disais. Donc là on n'est pas dans la prévention, on serait effectivement dans une autorité qui décide qu'on prélève toutes les jeunes filles de 20 ans pour leur conserver des chances ultérieures. La prévention, c'est parce qu'on a le risque de l'infertilité qui guette. Donc on peut d'une part l'observer, c'est-à-dire on peut faire des échographies, on peut faire des dosages hormonaux et voir où se situe la potentialité de la fertilité de la femme. Mais si on intervient par la congélation, c'est pour éviter que se trouve un problème d'infertilité qui va arriver assez rapidement, dans quelques mois, voire plutôt quelques années. Donc, à mon sens, si on le fait à bon escient, c'est-à-dire autour de 33-35 ans, on est dans le cadre de la prévention. Si on le faisait avant 30 ans, on serait loin de la prévention et ça serait une convenance irraisonnable.
Je voulais voir avec vous deux, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que, en tout cas en Suisse, cette congélation d'ovocytes est possible. Des femmes se tournent vers d'autres pays. Est-ce qu'on a une idée de qui aujourd'hui a recours à ce type de pratique, puisque vous parliez, M. Ansermet, aussi de l'ingérence par rapport aux arguments contre la congélation, les risques d'ingérence des entreprises au niveau des employés, et donc quelque chose qui concernerait toutes les femmes à partir du moment qu'elles sont dans la vie active. Mais en fait, est-ce que ça concerne est-ce qu'une femme de 22 ans va finalement se poser cette question-là à cet âge-là?
Je vais juste répondre à un point, parce que cette discussion sur les GAFA et sur les entreprises, à mon avis, elle est un peu biaisée. Parce que, effectivement, quand il y a eu cette congélation d'ovocytes il y a quelques années, les GAFA, donc Amazon et les autres, ont dit, nous, on est prêts à rembourser si vous décidez de faire. On a dit, oui, ils veulent, en fin de compte, que les femmes ne soient pas mères pour qu'elles soient plus efficaces. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça, parce que aux États-Unis, certaines entreprises prennent en charge, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, comme vous le savez, et prennent en charge la santé de leurs employés et payent donc tout ce qui concerne la médecine. Et donc là, ils ont simplement étendu la prise en charge médicale à ce type de demande. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, on pourrait effectivement néanmoins avoir une réflexion, se dire oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des pressions qui pourraient être faites? Et la véritable question sous-jacente, c'est effectivement, est-ce qu'une société apaisée et équilibrée ne serait pas qu'une femme, je dirais, en tous les cas pour des raisons professionnelles, bien sûr si elle ne rencontre pas d'hommes, mais si pour des raisons professionnelles, elle décide de reporter sa grossesse de façon continue? C'est parce que il n'y a pas, et c'est vrai que dans certaines situations, il n'y a pas un espace qui est donné à une double vie, qui est celle d'une maternité et d'une vie professionnelle. C'est toujours ce problème-là qui est posé, qui peut être posé en tous les cas. Et là, il ne faudrait pas que ça soit pris comme un argument qui pourrait, en tous les cas, limiter la volonté des femmes d'avoir des enfants et de continuer leur vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, moi j'ai la même impression sur cette histoire que j'ai citée de Google et de Facebook. Il faut dire que ça a beaucoup impressionné dans le débat éthique qui était en cours, parce que certains disaient oui, mais les entreprises vont faire pression par rapport à tout ça. Puis est sortie cette information. Donc ça a eu un effet un peu sidérant sur le groupe, en tout cas, de travail éthique. Et au fond, mais bon, en analysant ensuite cette littérature, il se révèle effectivement que ça a beaucoup été utilisé dans la tension entre les catastrophistes entre les fermés et les ouverts, quoi. Et qu'au fond, c'était une information qui a été un peu détournée. Je dirais que ça illustre en tout cas à quel point il y a une spirale entre des scénarios imaginaires et les techniques biotechnologiques. C'est-à-dire une spirale entre fantasmes et biotechnologie. C'est-à-dire, si on introduit quelque chose de nouveau, on a aussi un accélérateur de fantaisie. Je dis fantasme de fantaisie, de scénario imaginaire, de passion inconsciente. Enfin, quand on parle parfois des procréations médicalement assistées, il n'y a plus que des transgenres qui procréent avec leur grand-mère d'un enfant qui sera ensuite donné à quelqu'un qui n'en voulait pas et qui le revend à quelqu'un d'autre. C'est ça un peu. Et on pousse en avant quelque chose qui est cruel par rapport aux personnes qui décident pour des raisons totalement intimes, d'avoir un mode particulier de procréer. Voilà. Donc ça, je pense que cette spirale, est-ce qu'on peut arriver à couper dans cette spirale entre biotechnologie et scénario fantasmatique, c'est pas simple. Peut-être aussi les scénarios ont aussi promu en avant des nouvelles technologies. Alors, par rapport à votre question sur les femmes je dirais que pour moi, il n'y a d'éthique que du particulier. C'est-à-dire, le pour tous, je trouve, le bien pour tous, je trouve que c'est très difficile à définir. Dans ma pratique clinique, je rencontre des motivations de conserver qui peuvent être d'une variété infinie. La raison, c'est beaucoup plus inattendu que les raisons donné à la base de l'utilisation, de la base du débat éthique autour de l'utilisation de ces techniques. Je ne sais pas, prendre un exemple que j'ai vécu même plusieurs fois, c'est-à-dire une femme rencontre un homme plus jeune qu'elle, cet homme est encore étudiant et qu'elle a un désir d'enfant, pour lui c'est inimaginable d'entrer dans une telle démarche. Cette personne va venir consulter pour des états anxieux, peut-être, et puis vous essayez de chercher de quoi il s'agit dans cette anxiété, et puis tout à coup on vous dit qu'est-ce que vous pensez de la conservation des ovocytes. C'est-à-dire que ça se situe aussi dans une histoire, par exemple là, une histoire d'amour, et que ça tombe comme un événement où quelqu'un veut se servir des biotechnologies pour ça. Par contre, il peut y avoir aussi des gens seuls, avec le temps qui passe, et qui, au fond, s'inquiètent. Alors, effectivement, peut-être c'est une question que j'aimerais bien poser à René Friedman, c'est-à-dire la question des âges dans tout ça, c'est-à-dire, effectivement, plus on le fait tôt, peut-être plus les possibilités de procréatives sont... Est-ce que plus on le fait tôt, plus la possibilité procréative est maintenue? Ou bien si on décide tardivement, à partir de 35 ans, est-ce que ça diminue de manière importante? Puisqu'il peut y avoir des motivations par rapport à ça. Et puis bon, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les paramètres, vous voyez, la littérature, les pièces de théâtre, les films, les romans, contiennent beaucoup plus de choses que les raisonnements éthiques. Et la clinique contient beaucoup plus de choses que les raisonnements éthiques. Et dans la clinique, on a toujours des situations très particulières qui peuvent un peu laisser perplexes les cliniciens qui se disent est-ce qu'on va répondre à cette demande ou pas ? Et qui en même temps est vraiment le choix d'un sujet dans la construction de sa vie. Chacun s'invente, chacun se construit et pourquoi pas en utilisant des biotechnologies qui existent sous cette forme-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universel pour traiter cette question dès lors qu'on est dans le cas par cas de la clinique.
Monsieur Friedman, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question de monsieur Ansermet sur l'âge.
Oui, alors sur l'âge et puis sur l'universel. Sur l'âge, je crois justement que... il y a un moment donné où se pointe le risque de l'infertilité et c'est là que ça se pose. Si on le pose trop tôt, on n'est pas dans la prévention et on n'est pas dans une activité médicale correcte puisque la femme n'a aucun risque à 30 ans. Elle peut tout à fait, bien sûr que ça marcherait mieux si on conservait à 30 ans, mais il n'y a pas de raison de le faire puisqu'elle peut tout à fait concevoir dans les années qui viennent sans aucune difficulté. Ce n'est que lorsqu'elle commence à être un peu dans cette frontière où on s'annonce donc des difficultés qui est aussi au cas par cas qui doivent être analysées pour voir quand il y a une baisse de la fertilité et une impossibilité réelle à concevoir parce qu'il n'y a pas de monsieur, parce qu'il n'y a pas enfin, y a d'autres projets qui viennent complètement contrecarrer, encore que ça peut se discuter. Et justement, que s'il y avait, il peut y avoir des projets et aussi des grossesses. Je connais quand même beaucoup de femmes maintenant en médecine. Ça s'est terriblement féminisé, même les métiers chirurgicaux, même les métiers obstétricaux, et des femmes qui sont donc médecins et qui ont 2-3 enfants. Donc il y a les conditions aussi, je veux dire. Et d'ailleurs, il faut revenir, peut-être, c'est peut-être une façon aussi de revenir sur l'information et la prévention. C'est-à-dire que là, on court aussi un petit peu justement devant une situation d'une société qui est un peu toujours en train de pousser en avant. Alors il faut garder cette possibilité, vous avez compris ma position. Mais peut-être que si les femmes étaient informées tôt de cette baisse de la fertilité, il y aurait peut-être, lié avec l'âge, il y aurait peut-être une autre attitude. Deuxièmement, si les possibilités de maternité, y compris avec le développement professionnel, étaient un peu plus travaillées, c'est-à-dire que si après une grossesse, on n'était pas forcément rétrogradé, ou si on pouvait retrouver son travail et même progresser dans son travail, ça faciliterait peut-être les choses, parce que sur les motivations de repousser la grossesse, elles sont intéressantes aussi sur le plan social et sociétal. Donc c'est un ensemble qu'il faut envisager, me semble-t-il, pour répondre. En ce qui concerne
l'universel.
Oui, en ce qui concerne l'universel, alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faut vraiment être, c'est le principe même de la médecine, être sensible au cas par cas. Et je dirais être attentif, et toute situation, on en apprend tous les jours quasiment, quoi, devant surtout un truc aussi mystérieux que le désir d'enfant. Cependant, la question fondamentale, elle est de savoir, est-ce que, et peut-être je me tourne vers toi pour te poser la question, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des limites, une limite, peut-être pas beaucoup, mais une limite éthique qui est, elle, peut-être considérée comme universelle. Je veux dire, parce que pour moi, qui ai vécu un certain nombre de développements biologiques, de nouvelles situations, et ce n'est pas fini parce qu'on n'a pas abordé le futur, c'est-à-dire la création des spermatozoïdes, la création des ovocytes, enfin, il y a encore plein de choses à discuter, on n'a pas fini. À chaque fois, la question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que c'est délétère ? Est-ce que c'est délétère physiquement, bien sûr, mais est-ce que c'est délétère psychologiquement ? Et je crois, personnellement en tous les cas, c'est que oui, il y a des situations qui peuvent être délétères. C'est lorsqu'on utilise une personne à ses propres fins. Et c'est pour ça que personnellement, je m'oppose idéologiquement à la gestation pour autrui, parce que c'est l'utilisation du corps d'une femme à ses propres fins, aussi compréhensible est cette fin. On ne peut pas utiliser quelqu'un pour répondre à sa demande. On ne peut pas acheter quelqu'un pour sa propre demande, c'est pareil pour le don d'organes. Je veux dire, il y a des règles qui font qu'on doit respecter l'autre et ne pas l'utiliser à ses propres fins, aussi, on va dire, aussi terrible soit le manque dont on peut être victime par rapport au projet que l'on a. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que, oui, dans le cas par cas, mais malgré tout, comment tu ressens ce que je viens de dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même des limites plus générales qu'on voudrait voir appliquées partout ?
Oui, moi, effectivement, je suis... Quand je fais l'apologie du cas par cas, c'est aussi en pensant à l'enfant qui est issu de ça et qu'on ne peut pas le ramener qu'à son mode de procréation et que ça serait lui faire violence que de lui faire porter ce qui a présidé à sa conception. Enfin, c'est comme un enfant issu d'un viol, pour prendre un autre exemple, et que je travaille avec les enfants, qui est mon métier de base, et que au fond l'enfant doit pouvoir trouver une place dans le monde, quel que soit son mode d'origine. Hein. Je prends exprès le viol par rapport à quelque chose qui peut être terrible ou des. Voilà. Alors, c'est vrai que ma défense du cas par cas est une défense de l'enfant et du droit des enfants à être des enfants et du droit des enfants à avoir une enfance, quelles que soient les situations. Maintenant, par rapport à cette question de la limite, c'est-à-dire de la loi, finalement, je pense que tu as raison, enfin, que il y a peut-être une contradiction, une tension entre le cas par cas et l'universel. Et par rapport à ça, on peut dire que la question, c'est est-ce que des désirs peuvent devenir des droits ? Deuxièmement, alors peut-être c'est un terme qui fait un peu jargon psychanalytique, mais est-ce que les systèmes de jouissance peuvent devenir des droits ? C'est-à-dire, pour moi, le désir est ambivalent, le désir court, surprend, étonne, comme le furet du voisinage, hein, c'est-à-dire qu'on est surpris par son désir, mais parfois il y a des systèmes de jouissance, une sorte de vouloir à tout prix qui va jusqu'à utiliser l'autre. Alors, on pourrait dire que les technologies de procréation introduisent des nouvelles relations et que ces nouvelles relations, on doit être ouvert par rapport à ces nouvelles relations, les découvrir, être l'anthropologue de son temps, c'est-à-dire dire, voilà, peut-être ces différences à changer, mais peuvent aussi introduire des violences, des violations. Ce terme est peut-être bien à utiliser, des systèmes de jouissance qui introduisent des violences, et que là, je pense qu'il faut que la société protège les sujets de la violence qu'il habite, et qu'il peut y avoir une violence destructrice dans la procréation, comme il peut y avoir une violence destructrice dans les relations entre les humains, et que je ne suis pas du tout à dire que la cause qui fait que quelqu'un décide de procréer de cette manière explique et rend possible ce type de procréation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un couple qui est, j'ai la même position par rapport à la GPA, la violence de l'utilisation d'une autre femme à des fins, et puis bon, en plus dans des situations non cadrées comme il existe en Inde et ailleurs, n'est-ce pas ? Ça, c'est une violence, et qu'il faut qu'il y ait une limite qui soit posée à cette violence. Alors c'est pas parce que le désir était présent que ça permet tout, quoi. Alors, donc oui, pour introduire une loi, qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est ça, la loi, c'est pas si facile à introduire, une loi, hein, c'est-à-dire la loi de la prohibition de l'inceste, la loi, c'est un c'est comme ça, quoi. La loi, c'est pas totalement explicable, et que là, il y a des dimensions qui sont des sortes de malentendus dans des discussions éthiques par rapport au fait de dire on va expliquer la loi, hein, c'est, voilà. Bref, je finis ma grande périphrase pour dire que je suis d'accord avec l'affirmation beaucoup plus succincte de René Frydman.